Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Surtout du côté de Marseille, en 4 ans, la manufacture a perdu une unité de fabrication
pour lutter contre le tabagisme en France responsable.
C'est prétentieux.
T'es bien roulé dans ton tabac. Viens que je t'aspire au bout.
Bonjour, vous voici arrivé devant l'entrée de la friche La Belle de Mai. Alors moi, je ne suis pas une habitante de La Belle de Mai. Je suis arrivée il y a 7 ans à Marseille et on m'a conseillé de m'installer dans le nouveau quartier marseillais d'Euromède, La Joliette, quartier plein d'avenir. Au bout d'un ou deux ans, la déprime guettait. Ce quartier a été vidé de tous ses habitants expulsés. Plus de magasins, plus de vie de quartier. Et il se trouve que ma fille habitant à La Belle de Mai, je suis partie voir un peu ce quartier-là. Je suis arrivée un jour, il pleuvait. Il pleut rarement à Marseille, mais quand il pleut, c'est grave. Place Cadenas, place du marché, grouillante de monde. Et au coin de la place, un monsieur un peu pauvre qui vendait du thym. Et le thym ne lui suffisait pas, il avait aussi une boîte avec des escargots qu'il avait ramassés vu la pluie, et les escargots s'échappaient de la boîte. Eh bien, c'est un détail idiot, mais tout d'un coup, après mon Euromède si moderne et si froid, j'ai commencé à me sentir bien dans ce quartier. Et j'y suis retournée. Jour après jour, j'ai découvert le poissonnier chez Claire, j'ai découvert le boucher, le vendeur de journaux et la friche de La Belle de Mai.
Si vous me le commandez, je vous l'aurai pris. C'est des produits de feu grillés.
Nous rentrons dans la cour et nous allons la traverser jusqu'à l'escalier qui se trouve là-bas au fond et qui monte au restaurant Les Grandes Tables. Bien, alors la friche, c'est un lieu culturel important où il y a plus de 80 associations culturelles regroupées, où les artistes travaillent, créent et montrent aussi leur travail. On peut y écouter des concerts, y voir des expositions, y pratiquer aussi de l'art sous de multiples formes.
1, 2, 3, 4.
Moi, je dis que c'est un équipement de proximité pour nous, quoi. C'est-à-dire, c'est un endroit où on est du quartier, c'est un endroit du quartier, même si on n'y rencontre pas forcément que des gens du quartier.
Puis, c'est les réunions, c'est les apéros des brouettes, c'est venir dans le coin du jardin, faire les visites de chantier. Voilà, tout ça, la friche... On peut venir deux, trois fois par semaine quand on est là, sur Marseille. Alors, les brouettes, on va le définir. Alors, je ne sais pas comment les fondatrices, parce que j'ai l'impression que c'était des filles au départ, le définiraient, mais c'est un groupe informel d'habitants du quartier, qui au départ, c'était, je pense, je trahis pas en disant, je pense qu'elle s'était mobilisée autour du fait qu'il n'y ait pas de bibliothèque dans le quartier. Donc elles ont imaginé d'avoir des brouettes dans lesquelles on mettrait des livres et on en prendrait. Alors je crois que ça marche assez bien.
Au départ, quand je suis venue à la friche, c'était professionnel, c'était une curiosité artistique que j'avais. Et puis, j'ai eu l'occasion d'acheter donc en 2009 dans le quartier, l'atelier du boulevard Lessia. Et quand j'ai vu que j'étais si proche de la friche, ça m'a rassurée. Je continue d'aller à la friche pour voir des expos et faire des événements d'un point de vue culturel. Et puis, je fréquente aussi la friche comme une habitante de la Belle de Mai.
Arrivé en haut de l'escalier, on longe le restaurant, les grandes tables, et on arrive sur l'esplanade. Vous avancez tout droit, le long des Algeco, en direction du parking qui se trouve tout là-bas au fond.
Au bout du parking, au fond à droite, on a une grande maison, ancienne maison. Et ben juste en dessous, on a comme un grand mur de pierre avec un bout en bois qui sort comme ça. Ben ça, c'est la crèche qui a été construite en fait dans l'ancien bassin de rétention des eaux de l'usine de la Seita, qui est devenue la friche. Et dedans, en fait, la friche a construit une crèche. Une crèche pour 50 enfants, ouverte à tout le monde, une crèche associative, et elle a ouvert en avril 2012. Et moi, j'ai la chance que ma fille soit dans cette crèche.
Traversez le parking, vous verrez le grand portail.
J'amène ma fille le matin, et puis après, je vais à quelques mètres plus loin travailler. Et je retourne la chercher le soir, quand j'ai fini mon travail ou pas. Des fois, elle vient un peu travailler avec nous. Mais ce qui est chouette, c'est que dans la crèche, en fait, il y a beaucoup de gens du quartier. Donc ça, c'est assez chouette parce que ça fait qu'on rentre, on sort de la friche pour aller à la crèche avec les parents du quartier. Donc on peut faire un petit brin de causette sur le parcours. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit dans la friche étant très grande, t'as quand même des espaces intermédiaires avant de re-rentrer dans l'espace public, vraiment urbain, la rue et tout ça, parce que bon, pour accéder à la friche quand même... Avec une poussette, c'est dur, t'as les trottoirs, tu slalomes avec les voitures, donc on peut pas vraiment dire que ce soit très agréable de se dire on va se balader, on va discuter. Donc en fait, la friche, l'espace intermédiaire comme ça extérieur de la friche, te permet justement avec les parents de discuter, de prendre le temps. Souvent, on se retrouve juste devant la crèche, l'ancien terrain de tennis, à être là avec les parents. On a nos enfants, il est 5h30. Bon, on reste une demi-heure comme ça à papoter, à refaire le monde, à prendre des nouvelles. Oh bah tiens, tu fais quoi ce week-end? Ah, tu les emmènes là? Ah bah oui, peut-être qu'on se retrouve. Et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
Vous arrivez à la sortie. Nous allons passer devant l'ancienne maternité de la Belle de Mai.
Elle est derrière le gros mur de pierre, face à la sortie de la friche.
On est ici devant la maternité de la Belle de Mai. Maternité de la Belle de Mai, c'est pas n'importe quoi. C'est un lieu où tout Marseille est né. Si on n'est pas né à la maternité de la Belle de Mai, on n'est pas Marseillais. Voilà. Et en même temps, il y a une symbolique, parce que c'est peut-être à partir de la maternité de la Belle de Mai que pourrait renaître une forme de quartier de la Belle de Mai.
À la sortie, tournez à gauche, descendez pour prendre la première à droite. Tournez à droite. Je vous conseille de marcher sur le trottoir et nous allons aller jusqu'au bout de la rue. C'est le boulevard Ricard. Il est bordé par le gros mur de pierre de la maternité.
Quand on passe dans le boulevard Ricard, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que pourrait être ce lieu et qu'est-ce que pourrait devenir cet espace dans un quartier de la Belle de Mai à reconstruire, à reformater, pas reconstruire, à reformater, à relooker, à reconsidérer. Et puis en même temps, il y a une symbolique, puisque comme c'est un espace friche, et comme la Belle de Mai, on peut se le dire, est devenue une réserve foncière, cet espace-là, il faut faire attention à l'utilisation et à l'usage qu'on va en faire. Soit on le confie aux promoteurs et on fait des horreurs urbanistiques qui vont coûter très cher au quartier. Soit on le confie aux habitants et aux promoteurs, parce que bon, un quartier qui ne se développe pas, qui par la construction, ça ne peut pas exister. Et on se dit qu'on peut inventer quelque chose qui serait un espace partagé, une copropriété. Une grande copropriété. Et l'intérêt de ce lieu, il est là. Comment, à travers cette symbolique, le quartier peut inventer une autre forme de partage et une autre forme de vie, de bien commun. Alors là, il y a deux projets de construction de logements. Il y en a un pour le moment, dit-on, qui a été abandonné. Il y en a un qui va voir le jour, mais qui va voir le jour, c'est la faute à une politique urbanistique un peu désordonnée ou mal pensée. Parce que construire des logements dans un quartier, certes, c'est nécessaire, mais construire des logements dans un quartier où on ne prévoit pas l'accueil des nouveaux arrivants, c'est l'école, c'est les voies de circulation, c'est les centres aérés, c'est les espaces sportifs ou les espaces ludiques, le jardin public. Et là, c'est une erreur. De l'imaginer comme ça, c'est une erreur. Et ça peut servir de symbole dans un militantisme citoyen autour de l'espace du quartier. Et ça peut servir de symbole dans comment on peut imposer une façon de voir les choses.
Au bout du boulevard Ricard, vous tournerez sur votre gauche.
Le petit bal de la Belle de Mai, où l'on danse sous les branches, les beaux dimanches, l'accordéon joue des airs marseillais, et chacun tourne en musique, zic, 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 comme un tourniquet.
On va descendre la traversée. Avant de la descendre, sur la droite, il y a une descente d'escalier. Cette descente d'escalier, elle était rien du tout. C'est une descente d'escalier pourrie, qui était rien du tout. La Société des Eaux de Marseille a fait un grand chantier et la canalisation devait emprunter cette descente d'escalier. On a négocié avec la Société des Eaux, quand je dis on, c'est les forces mobilisées du quartier. On a négocié avec la Société des Eaux à ce qu'ils nous fassent une belle descente d'escalier. Et c'est vrai que cette descente d'escalier, de pourrie qu'elle était, elle est devenue agréable, on a envie de descendre.
Au bout du boulevard Ricard, tournée à gauche pour prendre la traverse série, elle surplombe les escaliers.
Et puis cette descente d'escalier, elle ne s'appelait pas, elle n'avait pas de nom. Et Darcellis, qui est quand même quelqu'un du quartier, qui a grandi dans le quartier, qui représente la variété marseillaise, a habité le quartier depuis longtemps. Sa sœur est morte dans le quartier il y a une dizaine d'années. Et on s'est mobilisé pour que cette descente d'escalier ou cette montée, ça dépend dans quel sens on le prend, s'appelle la montée d'Arcellis.
Attention, les voitures arrivent derrière vous. Rasez les murs.
On était pendant longtemps à la limite entre un quartier industriel, centre-ville, et puis la campagne. Voilà. Avant qu'on passe à l'avenue Fleming, qui a complètement coupé le quartier, parce que de l'autre côté de l'avenue, c'est la Belle de Mai encore. Hein. Mais bon, les gens ont pas oublié parce qu'il y a cette grande avenue. Alors ça, c'est vraiment ce que la ville savait bien faire à l'époque en matière de massacre urbain. Mais ce quartier-là, ce périmètre-là, c'était le côté pavillonnaire un peu. On habitait sur les hauteurs et on habitait à la campagne, sans être vraiment à la campagne. Bon, maintenant, la campagne a un peu disparu parce que le béton a grandi, mais c'est ça, ça représente ça.
La Belle de Mai doit faire face à un nouvel enjeu, profiter des fonds économiques du gigantesque projet d'aménagement urbain Euroméditerranée sans perdre son identité et son indépendance.
C'est pas les grandes tours des quartiers nord, c'est pas le petit village du panier, c'est un urbanisme qui se développe d'une manière à travers des petites maisons individuelles et autres, mais sans qu'on puisse avoir le sentiment d'un enfermement. C'est pas des zones pavillonnaires, il y a quelque chose d'une structure qui est potentiellement très intéressante par rapport à la vie sociale.
Vous traversez la rue et continuez tout droit dans la traverse série.
L'image du collège public Belle de Mai dans le quartier, c'est la seule image que les gens ont en fait, c'est la sortie. Et donc la sortie qui se fait dans la rue série.
Hamza, 3e 4.
Alison, 6e 1, collège Belle de Mai.
Kimberley, 4e 4.
Shaima, 6e 1, Shem, 6e 1.
Donc là, on est juste devant la sortie du collège et en fait, il n'y a jamais eu la place pour faire un parvis. Donc les élèves sortent là un petit peu en troupeau, en criant, vociférant, hurlant. Enfin bon, après une journée de travail intense, ils se défoulent complètement. Même si les adultes responsables essayent de les faire sortir au compte-gouttes, ils n'ont qu'une hâte, c'est de sortir dans la rue. Donc là, en fait, il y a une espèce de dévalement d'élèves enthousiastes qui sortent de cette porte-là. Et donc, du coup, les gens du quartier, ce qu'ils voient du collège, c'est ça. C'est ce déversement d'élèves criant, se bousculant, etc. Donc en fait, ça donne une image totalement négative du collège, malheureusement. Mais bon, moi, j'étais parent d'élève et j'étais maman et ma fille est allée dans ce collège-là. Et je peux dire que c'est un collège qui est très très bien, où les gens travaillent, où il y a une équipe pédagogique qui est vraiment formidable. Et moi, j'aimerais bien que les gens y fassent un petit peu l'effort d'aller au-delà de cette image-là de la sortie. En venant par exemple aux portes ouvertes pour voir un peu ce que les collégiens font. Et puis en plus, ça leur fait plaisir aux collégiens d'avoir des gens du quartier qui viennent voir un peu ce qu'ils ont fait pendant l'année. Et ça crée un lien entre les jeunes et les plus âgés. Alors quand ils se retrouvent dans la rue, il y a peut-être moins cette tension, entre les collégiens et les gens du quartier.
On va arriver à un carrefour. Continuez toujours tout droit. De la rue Série, vous allez passer à la rue Loubon.
Il y
Traversez la rue et continuez tout droit en prenant la rue Loubon.
La toison d'or, qui était une fois en or, celui qui l'a possédé était protégé de tous les malheurs.
Mais...
On descend, on arrive sur la place de l'église, place Placide Cafaud. Mais les gens ont tendance à dire place de l'église. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Placide Cafaud. Alors quand on recherche Placide Cafaud, c'était un brigadier de l'armée napoléonienne. Je ne sais pas, personne ne le connaît, mais je ne sais pas pourquoi. Il devait avoir un cousin qui habitait la Belle de Mai. Et le cousin a dû se mobiliser pour qu'on donne une place.
On voit l'église sur la droite. On continue tout droit. Et nous allons arriver à un arrêt de bus.
Mais cette église, elle a une symbolique parce qu'elle a été détruite pendant le bombardement en 1944. Elle a été complètement détruite et elle a été reconstruite tout de suite après la libération. Donc c'est la symbolique liée d'abord à ce que représentait l'église dans un village, même s'il est à caractère musulman maintenant, c'est l'état dominante culturelle musulmane ou culturelle musulmane, ça reste quand même la symbolique du lieu de rassemblement autour de l'église. Moi je dirais que c'est un peu le centre social du quartier. Le centre économique et commercial, c'est la place Bernard Cadenas, le marché, les commerciers autour, la supérette. Mais là, c'est le centre social, et le centre social au sens social, lien social entre les individus. C'est là qu'on se met à la terrasse de café, c'est la seule terrasse de café qu'il y a. Et c'est là que elle est à taille humaine, donc c'est là qu'on se croise, c'est là qu'on se rencontre, il n'y a pas de parking. Donc moi, je pense que c'est là le centre social de la Belle de Mai.
Dépasser l'arrêt de bus, il y a un petit muret qui longe la rue. Vous passez ce petit muret, hop là, vous êtes sur un parking et tout au fond, vous voyez un escalier que vous allez descendre.
Il y avait l'autre jour des dépôts d'ordures monstrueux. Qui n'était pas ramassé, ce parking n'était pas nettoyé. Et sur ce même parking, il y avait le soir des jeunes qui déconnent ou qui trafiquent sans doute. Mais c'est vrai que ce lieu donnait le sentiment d'un abandon complet par la collectivité. Pour avoir travaillé à la politique de la ville, je sais que la première chose qui permet à des jeunes notamment de respecter un espace, c'est qu'ils sentent que le service public et la collectivité et ceux qui en ont la responsabilité l'entretiennent.
On a une des amies qui nous a dit « mais ce passage-là, il est sordide, il n'est pas agréable, pourtant il est emprunté tous les jours parce qu'il est nécessaire comme raccourci ». Et puis il y a les buveurs d'à côté qui viennent en faire leur pissotière, etc. Si on en faisait quelque chose. Et de là, on a décidé d'en faire un jardin.
En bas de l'escalier, c'est la rue Belle de Mai que vous allez prendre sur la droite.
Et puis moi, j'avais envie de déposer un poème. De déposer un poème en arabe parce que j'avais envie de témoigner de mon identité métisse. Et au début, ça a été... Il y a eu des réticences, de la crainte de réactions xénophobes dans le quartier, etc. Et j'ai insisté, j'ai tenu bon.
C'est la rue Belle de Mai. Prenez-la sur la droite.
Et le résultat, c'est que tout le monde s'y est mis, et tout le monde s'est mis à écrire dans sa langue d'origine. Donc on s'est retrouvés avec plein de poèmes dans toutes les langues, en catalan, en provençal, en arménien, en italien. Et ça a eu beaucoup de charme. Et on ne savait pas comment ça allait évoluer. Petit à petit, les pots de fleurs sont partis, les bancs sont partis, tout est parti. Et donc on a accepté l'idée que ce serait un jardin éphémère. Mais on a un peu l'empreinte et le témoignage de ce jardin éphémère qui a existé un jour par les murs.
Maledito giumumendu cagrapivu l'occhi in terra.
de la rue Belle de Mai, vous tournerez à la pharmacie sur votre gauche.
Alors la rue Clovis-Hugues, en fait au départ s'appelait rue Bleue. Apparemment, le nom viendrait des flots de cigarettières habillées en blouse bleue et donc dévalaient la rue.
Nous remontons maintenant la rue Clovis-Hugues, tout droit.
Il a été le premier député socialiste de Marseille, donc né en 1851. Il participe à la Commune de Marseille, période 1871, donc petite période révolutionnaire similaire à la Commune de Paris. Et en fait, ce personnage qui participe à peu près à tout, pendant toute la fin du 19e siècle, à tous les mouvements sociaux, socialistes, d'ailleurs flirtera même, comme beaucoup de socialistes, avec le boulangisme. C'est pas du tout un théoricien, c'est un journaliste, poète, qui s'inspirera, ira plutôt chercher son inspiration chez Victor Hugo, chez Baudelaire, et qui lui-même, d'ailleurs, écrira des poèmes. Je pense, je ne résiste pas au plaisir de vous en donner un morceau, quand même, qu'il a écrit en 1872, lorsqu'il était en prison, suite à sa participation à la Commune de Marseille. Ce poème s'appelle « Le droit au bonheur ». Nous voulons aimer, chanter, vivre, vider les coupes de l'espoir, apprendre à lire dans le livre de la science et du devoir. Et nous voulons, si nos épouses ont rêvé de rendre jalouses les étoiles des firmaments, que dans des reflets de dentelle s'illuminent pour elles des couronnes de diamants. C'est voilà, quelque chose d'assez intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer d'un militant socialiste pur et dur. Il écrira beaucoup. Et son objectif à travers ses poèmes, c'est vraiment un objectif de lutte. Il dira par exemple « M'entendre qui voudra, ma rime se prépare à faire au bout un vacarme bizarre ». Et puis, il écrira également en provençal « Plus de maîtres, tous égaux, nous la garderons, la sociale ». Et ce personnage, tout à fait intéressant et attachant, meurt en 1907 et plus tard il donnera donc le nom à cette rue qui de rue Bleue deviendra la rue Clovis-Hugues.
On va tourner à la prochaine à gauche. Attention, bien prendre la rue Levat. Il y a un bar au coin et c'est bien la rue Levat que vous prenez. Attention dans la rue Levat, elle est étroite et les voitures arrivent par derrière.
Dans la rue Levat, tout de suite, on apprécie effectivement le calme. Et puis, derrière les murs qui sont là sur la droite, il y a un monastère. Alors, ce monastère, moi, j'habite juste à côté. Et est-ce que ce sont des voisins comme les autres ? Et je me suis posé la question quand je suis arrivée et j'ai eu très envie de les connaître. Donc, on a échangé quelques lettres. Où les lettres, chaque fois, étaient suivies d'une réponse. Et puis, je résiste pas quand même à vous lire le début de la dernière lettre que j'ai reçue, parce que je leur parlais justement de cette balade que vous êtes en train de faire. Alors, c'est la sœur Prière qui s'adresse à moi et qui me dit « Madame, les solennités qui accompagnent les fêtes de Pâques ne m'ont pas permis de vous répondre bien vite. » Je vous remercie vivement de votre lettre et vous félicite de vos projets pour la vie du quartier. Notre bâtisse est une des plus anciennes, puisque nous sommes établis depuis 1840 sur une propriété qui appartenait aux membres de la famille de notre fondatrice. À l'époque, les sœurs n'avaient vu que sur des campagnes et des champs d'oliviers. Alors voilà ce qu'elle m'écrivait. Bon, la lettre est plus longue, mais... Alors, ce que j'ai quand même oublié de vous dire, c'est que leur nom, elles s'appellent les victimes du Sacré-Cœur de Jésus. Si vous voulez en savoir plus, quand même, chaque année au printemps, il y a une vente de charité qui vous permet de pénétrer à l'intérieur du monastère. Et comme me l'écrivait dans cette même lettre la prieure du monastère, vous aimerez l'ambiance très chaude et familiale. Voilà, ça c'est un petit peu de l'intérieur que je vous livre mes contacts avec les sœurs du monastère. Sinon, pour nous, on a les cloches qui ponctuent la journée et qui font finalement ce lien avec l'extérieur, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse.
Dégagez une oreille pour bien entendre les voitures qui arrivent par derrière. Au bout de la rue Leva, vous tournerez à gauche sur la grande avenue qui s'appelle la rue Jobin.
Moi, j'habite le quartier depuis 5 ans. J'ai grandi dans le Vaucluse, donc en Provence, pas très loin, à la campagne. Depuis petite, j'ai été imprégnée de cette culture provençale. Et puis j'ai mon métissage, mon côté tunisien. J'ai vécu aussi en Tunisie, c'est ma deuxième patrie. Et ensuite, je suis partie faire mes études à Paris. Et quand je suis revenue il y a 5 ans, j'ai décidé de m'installer sur Marseille. L'idée, c'était à la fois, j'avais découvert la ville, donc j'avais envie de ville parce que j'avais pris goût à la ville. Et en même temps, je voulais retrouver cette culture méditerranéenne et provençale.
Au feu, tournez à gauche dans cette grande rue et continuez tout droit jusqu'aux arbres de la place du marché.
Et par hasard, je suis arrivée à la Belle de Mai. En fait, ça a été pour moi une grande révélation parce que partie à Paris, de ma Provence, de mon côté village, petit village, je me suis retrouvée très seule. J'ai souffert de l'anonymat et de la solitude. Et là, j'ai retrouvé cette vie de village. Petit à petit, j'ai commencé à discuter avec les commerçants, tous les habitants, les voisins. Et ça a été extraordinaire. Aujourd'hui, j'y vis et j'y ai mon atelier, à deux rues de chez moi. Pour aller à mon atelier, il faut que je prévoie à peu près trois quarts d'heure, une heure, puisque je m'arrête toutes les cinq minutes, et bonjour, et comment tu vas, et comment va ta maman, et comment va ton papa, et comment... Comme autrefois en Provence, comme dans les pays d'Afrique du Nord, enfin cette culture méditerranéenne où on prend le temps.
Continuez tout droit jusqu'aux arbres de la place du marché.
Et puis aussi cette solidarité. Par exemple, des périodes dans ma vie où j'ai eu des difficultés financières, où je suis allée voir le poissonnier qui me dit « Bah alors, tu viens plus m'acheter du poisson ?» Et je lui dis « Bah oui, désolé, en ce moment, c'est pas facile. » Et hop, il me sort 1 kilo de poisson, il me le met dans un sac et il me le donne. Et tout est comme ça. Il y a une sorte de solidarité, d'entraide, de chaleur humaine, malgré la misère, malgré... le côté un peu insalubre du quartier, des maisons, un petit peu désuètes, un petit peu... Y a une chaleur humaine, et ce qui fait que je me sens vraiment dans mon village, en fait, à la Belle de Mai.
L'angle droit du bout de la rue, c'est l'école. Vous passez devant l'école et vous prenez la rue Raymondino sur votre droite.
Je suis en relation avec beaucoup de gens, c'est-à-dire le voisin à côté qui fait les taxiphones, le petit bar en haut qui fait l'angle, là, je ne sais pas comment il s'appelle, en fait c'est l'ex-bar Corse, avec qui j'ai des relations, les voisins, hein, ils viennent, j'ai repéré une poussette il y a 6 minutes, parce que la femme elle a poussé la poussette, la roue est partie, donc j'ai réparé, merci, voilà. De temps en temps, j'ai droit à une cartouche de cigarette ou en remerciement, parce qu'on ne va pas faire payer une roue de poussette quand même. Voilà. Non, sinon, j'ai de bonnes Pour le moment, hein, pour le moment. Alors, il y a toujours des renards, les petits renards de 14, 15 ans ou de 7, 8 ans qui font un peu l'école à la sortie de l'école. Mais enfin bon, hein, ça c'est pas leur faute, c'est la faute des parents. Si on les vissait un peu, hop, il faudrait au moins les imbéciles.
La première à droite, c'est le boulevard Lecce. Vous allez le prendre.
Moi je me plais, voilà, je me plais, je suis bien, voilà. Tout le monde me dit bonjour, ils sont sympas. Ma foi, de temps en temps je vais au marché. Le marché, bon, il n'y a pas grand-chose, mais enfin bon, il y a toujours quelque chose. Si j'ai besoin d'une pile ou d'une gamate pour faire mon mélange, bon, non, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à me plaindre. Voilà, pour le moment. Après, ça fait quand même 4 ans que je suis là. Puis les gens, ils sont contents, ils voient des belles choses, ils voient des belles voitures, des motos, des trucs, des machins. Donc ça les motive un peu, ça les stimule, ils viennent me brancher, gna gna, bon, c'est sympathique. Hein. C'est la vie, la belle de mai, hein. Voilà. Il y a des belles femmes, il y en a de moins belles, il y en a de sympathiques, moins sympathiques. Il y a des grandes, des petites, des grosses surtout, il y en a. Hein. Mais enfin bon, voilà.
C'est le boulevard Lecce. Continuez-le tout droit jusqu'au bout.
Et on arrive sur le local de la section du Parti communiste du 3e arrondissement. On essaye de s'investir parce qu'on est bien à la Belle de Mai. J'y ai élevé mes enfants. Et je trouve que ce quartier, même s'il s'est légèrement dégradé, même ces mots me pèsent, j'y reste bien, j'y reste avec grand plaisir. Sachant qu'on n'est pas loin de la gare, on n'est pas loin du port. Toutes les origines, toutes les ethnies, toutes les cultures y sont représentées. Même si parfois c'est pas simple de vivre en harmonie avec tous et toutes. Mais quand on a des associations, on voit une association comme Auréane dans la rue Clovis-Hugues qui s'investit et qui la première des choses qu'elle nous dit, c'est pas une association à but comoréenne. C'est à but social, économique, culturel. Et elle s'adresse à tous et à toutes. On a porté l'hiver dernier avec le curé de la place Cafo, un monsieur à qui j'ai volontiers dit un jour de manifestation camarade, ne sachant pas que c'était le curé de l'église de la Belle de Mai, qui a bien fait sourire mes amis et camarades d'ailleurs. Mais il ne s'est absolument pas offusqué et à travers ses actions, on était filé un coup de main au Rome, qui était en difficulté sur une église à la rue Druffy, au boulevard de Paris. C'est à travers tout ça que je vois l'activité l'activité communiste, l'activité d'un homme à travers tout ce qu'il vit et ses semblables. Donc voilà où on est bien à la Belle de Mai.
La Belle veut dire les ateliers du boulevard Lecce. C'est un lieu que j'ai acheté en 2009. À un artiste, ça a été un atelier d'artiste, ça a été aussi une carrosserie automobile, ça a été une menuiserie, ça a été un magasin d'électroménager. Et donc depuis 2009, c'est à la fois mon atelier, là où je reçois les gens aussi, c'est-à-dire mon showroom, mon bureau, et c'est également mon lieu de vie.
Vous sortez du boulevard Lecce, tournez à droite. C'est la rue François-Simon, et au bout de 50 mètres à peine, vous arriverez sur la rue Jobin. Remontez là, sur la gauche.
C'est pas forcément un quartier que je ciblais au départ, parce que c'est un quartier qui n'a pas une très bonne réputation et du coup, venant du 9e, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, j'ai visité ce lieu qui appartenait à un artiste. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce lieu et je me suis rendu compte que la friche était vraiment au bout de la rue. Et donc, ça m'a rassurée et j'ai foncé. Et en aucun cas, je le regrette parce qu'aujourd'hui, j'adore ce quartier.
longer la friche. Vous allez arriver à votre point de départ, à l'entrée de la friche au 41 rue Chemin. Vous êtes arrivé à votre point de départ à l'entrée de la friche. Vous pouvez repartir en vélo, à pied, ou vous pouvez entrer dans la friche.
Ce qui est assez impressionnant quand on est dans cette cour-là, si on lève la tête, c'est cette boîte blanche qui est en train d'exister, qui s'appelle le Panorama et qui est le nouveau lieu d'exposition de la friche de la Belle de Mai. Qui est un cube posé sur l'ancien bâtiment. Et voilà, c'est un lieu qui est à la fois très contemporain, qui est en même temps un espèce de point... c'est un peu la cerise sur le gâteau de la friche, finalement. C'est-à-dire que tout le bâtiment a été repris, réagencé au quai, et on vient avec cette boîte marquer le point d'honneur de cette transformation. Et on sent que là, il peut se passer des choses formidables. Et d'ailleurs, on a un point de vue de là-haut. Je vous invite à aller le découvrir parce qu'on a un point de vue qui est assez phénoménal.
Cette balade vous a été proposée par Brouette et compagnie, accompagnée à la réalisation et au mixage par Nelly Fleischer et Tony Regnault. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous guider dans les rues de la Belle de Mai. Merci à tous ceux qui ont prêté leur voix pour réaliser cette promenade de la Belle de Mai. Nous avons pris un grand plaisir à nous promener dans les rues en pensant à tous ceux qui, plus tard, s'y promèneraient aussi en nous écoutant.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.